Au fil des semaines qui ont passé, je me suis demandé si les textes bibliques pouvaient, d'une manière ou d'une autre, nous éclairer un peu sur cette question épineuse de savoir à quel âge il convient de prendre sa retraite et combien d'années il faut cotiser. Mais évidemment, la Bible n'offre pas ce genre de réponse, car cela dépend de notre seule responsabilité et il n'y a pas de réponse universelle sur ces questions-là. Alors, à défaut de réfléchir sur la question de la retraite, il m'a semblé intéressant de réfléchir sur la question du travail et du repos à travers deux textes, deux extraits issus de ce que nous appelons le Décalogue. Ces 10 paroles que Dieu confie à Moïse pour qu'elles servent en quelque sorte de chemin de liberté au peuple. Et il y a dans ces 10 paroles une parole qui concerne, vous le savez peut-être, le Shabbat, le sabbat, dans une translittération française. Et voici ce que les textes bibliques nous disent au sujet de ce sabbat dans les deux versions qui sont disponibles, légèrement différentes l'une de l'autre. La première se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et la seconde se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Voici donc tout d'abord dans le livre de l'Exode ce qui est conseillé. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Voici donc la version de l'Exode qui relie le sabbat à l'acte même de la création. Et puis, dans le livre du Deutéronome, une version sensiblement différente. C'est au verset 12. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, le petit livre bleu, au cantique 400. Au cantique 400, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, notre façon de dire à quel point nous avons soif de la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, si j'ai retenu pour notre méditation ce matin ces paroles qui concernent le sabbat, c'est parce que je trouve que cette parole du Décalogue a de quoi nous prendre aux entrailles, un peu à la manière de ce Samaritain qui descend sur le chemin qui mène de Jérusalem à Jéricho et qui voit sur le bord du chemin un homme laissé à demi-mort. Parce que je trouve que cette parole du Décalogue est un peu l'image de cet homme laissé à demi-mort. Le sabbat, voilà bien une des 10 paroles confiées par Dieu à Moïse que, dans notre protestantisme en tout cas, nous bafouons allègrement. Une parole dont nous ne tenons pas vraiment compte. Et peut-être parce que nous avons trop bien compris que l'homme n'était pas fait pour le sabbat, comme le dit Jésus, eh bien nous en avons peut-être oublié aussi que le sabbat, quand même, est fait pour l'homme. Et, en tous les cas, dans notre protestantisme libéral, force est de constater que nous faisons preuve de beaucoup de libéralité à l'endroit de cette prescription, et que même cette libéralité prend parfois des allures de libertinage avec cette parole. Et pourtant, cette demande d'observance du sabbat n'est pas une parole de qualité moindre que les autres. Ce n'est pas une parole de seconde zone. Ce n'est pas celle qui vient comme cela après toutes les autres. Elle est placée quasiment au centre du Décalogue. Et c'était en tout cas celle des 10 paroles qui est la plus développée, la plus explicitée, la plus longue dans sa forme textuelle, aussi bien dans la version de l'Exode que dans la version du Deutéronome. Et il y a peut-être là l'indice que déjà, à l'époque des rédacteurs, on se disait que cette parole était la plus fragile, que c'est celle qui risquait de disparaître le plus facilement de l'esprit des lecteurs, et qu'il fallait donc essayer de la consolider un peu avec quelque chose qui ressemblerait à des soutènements. C'est la parole qui seule est justifiée dans le décalogue. Alors le sabbat a plusieurs fonctions. Il y a les deux fonctions théologiques sur lesquelles nous allons nous pencher, mais il y a aussi trois autres fonctions que l'on ne peut pas passer sous silence, que j'évoque simplement, mais qui donnent aussi toute sa valeur au sabbat. La première, c'est la fonction physiologique, bien sûr. Le sabbat, parce qu'il est un jour de repos, est un jour utile pour le corps. C'est un jour où l'on prend soin de sa carcasse, où on ne la fatigue pas au même titre que les autres jours. Parce qu'on sait que le corps est un élément indispensable pour la vie et qu'on oublie parfois un peu trop de s'en préoccuper. De même qu'il y a la nuit pour se reposer avant d'agir, eh bien faire sabbat, faire shabbat, c'est permettre à notre corps de souffler, de respirer et de se recharger d'énergie, ce qui n'est pas inutile. La deuxième fonction est plutôt psychique. Outre le repos du corps, le sabbat permet aussi le repos de l'esprit. Il me semble même que le sabbat est une bonne méthode pour obéir à cette recommandation de Jésus qui dit qu'il ne faut pas se préoccuper du lendemain, qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Rien ne vaut la soirée qui précède un jour de repos. Enfin, une soirée où on n'est pas assailli par l'organisation du lendemain, où on ne se dit pas « qu'ai-je encore oublié dans mon planning ?» Qu'ai-je encore à faire ? Une soirée vraiment gratuite, sans pression. Eh bien, le sabbat permet aussi à l'esprit de se libérer de la pression, permet de se libérer de l'inquiétude du lendemain. La troisième fonction, c'est la fonction sociale. Parce que nul ne besognera le jour du sabbat, ni notre conjoint, ni nos enfants, ni nos collaborateurs, ni les autres, ni qui que ce soit. Le jour du sabbat permet, au moins sur le papier, à une même population d'avoir la possibilité de vivre des rendez-vous communs, qui ne soient pas de l'ordre du commerce. Le repos est quelque chose de gratuit. Un tel jour permet de croiser les réseaux de relations, comme on le fait autant que nous pouvons au sein de l'Église, comme cela se fait dans le milieu associatif. Et au fond, un tel jour autorise des rendez-vous sociaux marqués justement par la gratuité. Des rendez-vous sociaux qui agrandissent notre espace de vie. Alors voilà pour trois fonctions importantes du sabbat, mais ce ne sont pas celles qui sont proposées par les textes bibliques. Il y a deux autres fonctions que nous allons maintenant aborder. La version du livre de l'Exode relie donc le sabbat à l'acte créateur de Dieu, celui qui est raconté dans les premiers versets du livre de la Genèse. Ce souvenir du jour du sabbat, c'est donc ce souvenir de la manière dont il est dit que Dieu a créé le monde, et c'est au fond rappeler que nous serions bien inspirés de prendre un peu modèle sur cette manière de faire. Tout d'abord, notons que le sabbat, en soulignant l'action de Dieu qui précède le septième jour, pose quand même, et ça c'est mathématique, que l'essentiel de la vie réside non pas dans le sabbat, mais dans le fait de créer, dans le fait d'agir en faveur du monde. Autrement dit, le sabbat n'a pas pour fonction de nous faire sortir du monde de l'action et de nous faire entrer dans un univers d'oisiveté, mais au contraire, le sabbat est là au service des six jours qui précèdent. Finalement, le sabbat a pour fonction de nous aider à réinvestir le travail, pour manifestement lui donner du sens. L'essentiel de la vie, nous fait comprendre ce texte, ce n'est pas le repos qui ne constitue dans la perspective biblique qu'un septième de notre semaine. L'essentiel, c'est l'œuvre que nous sommes en mesure de réaliser et qui devrait constituer, disons, 6/7 de nos journées. Le jour du sabbat est certes un jour sans travail, mais aussi un jour pour considérer l'œuvre accomplie. C'est un peu comme un jour de bilan, en quelque sorte. Un jour où l'on peut apprécier ce qui a été bon, voire très bon. Et donc, comme tout bilan qui se respecte, un jour qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. Le sabbat est assez intéressant, je trouve, parce qu'il effectue une lecture théologique du travail. D'abord, il relie ce que nous faisons à l'acte créateur de Dieu, et c'est une manière de dire que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, devrait concourir à rendre le monde plus vivable, la terre plus habitable, à l'image de ce que Dieu a fait tel que le livre de la Genèse le rapporte. Et puis ensuite, les deux versions suggèrent un aspect que nous avons parfois du mal à mettre en application. Faire tout notre ouvrage. Je trouve que l'indication est particulièrement intéressante pour les fanatiques du travail, ceux qui disent que le travail ne finit jamais, qu'il y a toujours quelque chose à faire, et même qu'on est débordé. L'indication est intéressante pour ceux qui disent qu'on peut toujours s'inventer du travail à l'infini. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Eh bien, voilà qu'il y a de quoi nous faire réfléchir lorsque nous considérons le travail comme une tâche sans fin. Cette perspective théologique nous invite pour le moins à nous demander si, parfois, c'est bien notre travail que nous sommes en train d'effectuer et pas celui de quelqu'un d'autre. Si nous ne finissons jamais notre travail, c'est peut-être parce que ce n'est pas notre travail que nous sommes en train de faire, mais celui qui aurait pu être réalisé par un autre qui, si ça se trouve, est justement désœuvré et sans emploi. Cette perspective théologique du sabbat, en lien avec la dynamique créatrice initiée par Dieu, nous invite à la fois à réinvestir le travail comme un lieu digne de notre engagement, mais aussi à donner du sens à ce que nous faisons. Non, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, et ce n'est pas en se vouant intégralement à notre travail que nous aurons réussi notre vie. Le sabbat, en posant une limite au travail, nous prévient que le travail pour le travail, ce n'est pas l'horizon que Dieu nous dessine. Et d'ailleurs, nous pouvons aussi considérer cette parole comme une mise en garde contre un mal qui nous guette parfois, ne pas finir ce que nous entreprenons. Toujours commencer des choses, toujours initier des projets et ne jamais aller au bout de ces projets. Avoir de belles idées et ne jamais les concrétiser. Limiter le travail dans le temps, ceux qui sont dans des postes de management savent que cela participe du management par projet. On fixe un but, on se donne les moyens pour l'atteindre avec un délai. Et une fois ce but atteint, on marque le coup. Et cette façon de marquer la fin d'un travail peut revêtir différents aspects. Les Hébreux qui marchent dans le désert en quête de la terre promise, qui ne marchent pas juste pour le plaisir de marcher, Une fois en terre promise, une fois que cet objectif est atteint, ils célébreront cette entrée par la fête des pains sans levain. Au terme des examens, en général, les étudiants ne restent pas tout à fait inactifs. Ils se retrouvent pour ce qui était autrefois le monôme et qui est aujourd'hui plus largement une fête, avec là aussi beaucoup de libéralité en général. Dans le monde de l'entreprise, l'atteinte des objectifs peut être l'occasion d'un moment particulier, d'une réception vécue dans cet esprit de pouvoir dire que ce que nous nous étions fixés a été atteint, et puis d'avoir un moment de reconnaissance pour les uns et pour les autres. Dans tous les cas, l'intérêt de ce qui pourrait être un sabbat finalement, c'est de scander le quotidien, de lui donner du rythme. Parce qu'au fond, le sabbat est à la vie, ce que le temps mort est à l'électro, encéphalogramme ou à l'électrogramme. C'est-à-dire que lorsque votre ligne d'électroencéphalogramme est plate, c'est plutôt mauvais signe. Pareil pour l'électrocardiogramme. En revanche, dès qu'il y a des creux, c'est beaucoup plus rassurant. Eh bien, le sabbat permet cela. Il permet ces creux qui permettent ensuite d'atteindre des sommets. Et au fond, scander le temps, c'est une façon de dire que nous avons atteint quelque chose et que nous pouvons redémarrer autre chose. Le fait qu'il y ait un terme à ces petits projets, c'est une façon de dire que nous ne sommes pas dans une logique du travail pour le travail, que le travail est au service d'un projet de vie qui se décompose en une série de petits projets dont nous sommes les acteurs. Alors peu importe à vrai dire si le sabbat intervient au bout de 6 jours, pile, ou un peu plus ou un peu moins. Peu importe que nos projets se réalisent en 6 jours. Il paraît que Rome ne s'est pas fait en 6 jours. Il est fort à parier que 6 jours ne soient pas forcément la mesure exacte de toute chose. D'ailleurs, il faudrait être d'autant moins à cheval sur ce principe du 6 jours plus 1 que primitivement, le Shabbat était mensuel. Ésaïe, Osée, Amos, le calendrier des jubilés, nous révèle que dans un premier temps, le Shabbat était calé sur la nouvelle lune, la Néoménie. Et le sabbat hebdomadaire semble être une invention du retour de l'exil de Babylone, du temps de Néhémie. Et à mon avis, ça, c'est un coup des religieux pour reprendre le peuple en main et le restructurer. Et avouez que pour un religieux, c'est quand même plus satisfaisant de concevoir un culte chaque semaine plutôt que chaque mois. Il y a de l'intérêt quand même. L'intérêt n'est pas simplement d'avoir les paroissiens sous la main. L'intérêt est de pouvoir permettre à chacun d'être aussi dans un processus de libération qui a une fréquence hebdomadaire plutôt que mensuelle. Et mieux vaut être libéré chaque semaine que chaque mois. Avoir une forme de liberté à l'égard du sabbat, c'est justement dans le droit fil de ce second aspect théologique qui nous propose, cette fois, d'envisager le sabbat par rapport à la libération d'Égypte. C'est la version du Deutéronome qui nous propose cela. Se souvenir que le peuple hébreu a été esclave au pays d'Égypte et que c'est l'Éternel qui l'en a libéré, c'est inscrire le sabbat dans le droit fil de cette libération accordée au peuple, libération qui conduit ensuite à la terre promise. Et évidemment, on conçoit bien que si Dieu a libéré son peuple de la terre d'Égypte, du pays de servitude, ce n'est pas pour que le peuple se jette aussitôt dans les mains du premier tyran venu. Et c'est la raison pour laquelle le décalogue intervient, c'est pour donner au peuple les moyens de préserver sa liberté. Les 10 paroles ne sont pas 10 paroles pour enquiquiner le monde, 10 paroles au contraire pour nous rendre libres à chaque instant. En quoi le sabbat nous aiderait-il à être libres? En général, on a l'impression que le sabbat, c'est plutôt contraignant, que c'est quelque chose qui nous oblige, et que si vraiment on veut respecter le sabbat, c'est tout un arsenal de petites choses qu'il ne faut pas faire et qui nous empoisonnent la vie. Moi, je veux défendre le sabbat. Le sabbat tranquille, le sabbat dans l'esprit du sabbat, le sabbat dans l'esprit de Jésus. Parce qu'il me semble que le sabbat nous aide à rester libres en nous permettant de prendre conscience de nos dépendances, en nous permettant de mesurer nos addictions. La rupture que nous inflige un sabbat respecté soigneusement nous permet de constater très rapidement ce à quoi nous sommes vraiment accros. Et pour faire le lien avec le point précédent sur le travail, tout le monde est-il vraiment capable de tenir une journée sans travailler? Mais dans un autre registre, pouvons-nous tenir une journée sans regarder la télévision? Oui, bien sûr, individuellement, tout le monde va me dire « ça, j'y arrive ». Mais certains vont peut-être avoir du mal à tenir une journée sans aller au casino. D'autres vont avoir du mal à tenir une journée sans jouer à des jeux vidéo. J'en connais beaucoup qui ont du mal à tenir une journée sans consulter leurs emails. D'autres n'envisagent pas une demi-journée sans leur téléphone mobile. Certains pourraient-ils tenir une journée sans faire le ménage? Et si nous allons au-delà de la lettre du sabbat, si nous allons selon l'esprit du sabbat, pouvons-nous tenir une journée sans tabac, sans alcool, une journée sans remarques désobligeantes? Pouvons-nous tous tenir une journée, nuit incluse, sans nos enfants, en général quand ils sont jeunes, petits? Pouvons-nous tenir une journée sans psychotropes? Pouvons-nous tenir une journée sans coach ou sans gourou? On peut bien sûr défiler la liste à l'envi. Et au fond, ce qui est intéressant dans le sabbat, c'est qu'il nous permet de faire le point sur nos dépendances, ce qui nous empêche d'être véritablement libres comme Dieu le souhaite. Le sabbat n'est pas une thérapie. Le sabbat, c'est ce que Dieu met à notre disposition pour prendre conscience de certains liens qui nous contraignent et qui nous empêchent de pouvoir aller vraiment notre chemin. Au fond, le principe du sabbat participe de ce travail initié par Dieu pour nous libérer de toutes ces mauvaises aliénations qui brident notre vie et qui nous rendent esclaves parfois à temps partiel, parfois plus si affinité. Au fond, le sabbat n'est pas une thérapie, c'est plutôt une pédagogie. La pédagogie que Dieu nous propose pour mettre à jour ce que Nicolas Berdiaev appelait les séductions et dont nous n'avons pas forcément conscience. Le sabbat nous aide à prendre conscience que parfois, ce sont nos possessions qui nous possèdent ou qu'il y a des contraintes de la vie quotidienne qui nous tiennent lieu de pain quotidien. Alors évidemment, lorsque je parlais du sabbat et du travail, ce sont essentiellement les personnes qui travaillent qui peuvent se sentir concernées. Mais je connais des personnes à la retraite qui font du travail encore une véritable drogue. Et je connais des personnes qui sont sans travail, qui justement sont liées par ces tracas du quotidien et qui les empêchent de pouvoir accéder à une vie où ils peuvent, si ce n'est travailler pour de l'argent, du moins accomplir une œuvre. Et c'est bien là ce qui compte aussi. La vie quotidienne qui peut nous tenir lieu de pain quotidien. Eh bien, le sabbat permet de faire le tri et le cas échéant de se séparer des encombrants. Le sabbat est fait pour nous libérer de ce qui nous rend prisonniers et captifs. Alors, de nos jours, en christianisme, le sabbat n'est plus. Le sabbat est mort, en quelque sorte. Le samedi n'a plus rien de sabbatique. Il a été, dans une certaine mesure, remplacé par le jour du Seigneur, dies dominica, le dimanche, qui célèbre la résurrection du Christ Jésus. Eh bien, peut-être que ce dimanche est une résurrection du sabbat. Non plus un sabbat de la lettre, mais un sabbat de l'esprit. Parce que Pâques, précisément, s'enracine dans cette double compréhension du sabbat. À la fois l'acte créateur de Dieu, qui ressuscite la vie là où elle semble exclue, et Pâques, qui libère l'être humain de ce qui voudrait le rendre captif, de ce qui voudrait l'enfermer au fond de quelques grottes. Alors que le sabbat soit le jour du sabbat ou non, que le sabbat soit hebdomadaire ou non, voilà qui n'est pas forcément le plus décisif. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir peut-être prendre conscience déjà que le sabbat, c'est un moyen que l'Éternel met à notre disposition pour libérer notre énergie créatrice. Et au fond, peut-être découvrir que oui, le sabbat est vraiment fait pour l'homme. Amen.